You rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Avril 1992, Los Angeles, États-Unis. La cité des anges se couche dans l'incertitude et la violence. Le juge Stanley Weisberg n'a encore jamais vu ça. Il a pourtant fait tout ce qu'il a pu. Conscient de l'embrasement possible de l'opinion, il a tenté de prévenir les autorités. En vain. Il y a quelques heures, en milieu d'après-midi, le magistrat Weisberg a prononcé l'acquittement de 4 prévenus à la fonction particulière et centrale dans la société. Ce sont des policiers. Tout est parti du tabassage d'un jeune Afro-Américain, Rodney King. La scène de son arrestation filmée a considérablement ému l'opinion. Les images ont permis d'identifier les 4 policiers. Le procès des inculpés est le sujet le plus couvert du moment par les médias nationaux. C'est d'autant plus le cas que le meurtre de la jeune Latasha Arlins par une commerçante a participé à mettre le feu aux poudres. La meurtrière n'a écopé que d'une peine avec sursis. Alors autant vous dire que lorsque l'acquittement est prononcé pour les 4 policiers inculpés, l'embrasement ne tarde pas à devenir incontrôlable. Le juge Weisberg sue à grosses gouttes en regardant le journal télévisé. À côté de lui, sa femme se ronge les sangs. « Ben, tu vas voir, » lui assène son mari. « Ça va totalement nous échapper, ce bordel !»« Ben, il n'a pas tort, l'homme de justice, il n'a pas tort. » Bientôt, la situation devient hors de contrôle. Durant une semaine, les États-Unis vont vivre l'un des moments les plus terribles de leur histoire récente. C'est toute la cité des anges qui bascule dans l'horreur et la violence. Une heure après l'annonce du verdict, les premières effusions de violence gagnent le centre-ville. La police débordée est sur les nerfs. On court à la catastrophe. Le juge Weisberg va enchaîner plusieurs nuits blanches. Pendant plus d'une semaine, la tension grimpe de plus en plus fort. Le 30 avril 1992, la violence gangrène toute la ville. Fusillades, incendies, pillages, la totale. Plus de 2000 agents des forces de l'ordre sont déployés afin de ramener le calme, en vain. 48 heures après le début des émeutes, le président Bush décide d'envoyer des agents fédéraux sur les lieux avec l'espoir de juguler la montée continuelle de la violence. Là encore, pari raté. Les arrestations se multiplient, tout autant que les morts et les blessés. Il faudra attendre le 4 mai pour voir la situation s'apaiser quelque peu, alors que l'armée et la garde nationale envahissent les rues. Les troupes trônent pourtant sur une montagne de victimes. Au milieu du chaos, un groupe de rock va sonner la charge. Il s'appelle Rage Against the Machine et il va sans aucun doute participer à faire monter la colère de celles et ceux qui se sentent floués. Un moment charnière qui va faire basculer l'histoire. Los Angeles s'embrase, les morts s'entassent, les prisons regorgent de révoltés, les hôpitaux de blessés, et la foule ne scande qu'un titre, « Killing in the name », un cri qui appelle à la révolte et à la révolution. Les émeutes de Los Angeles sont des événements on ne peut plus importants dans l'Amérique des années 90. Le tabassage du jeune Rodney King devant les caméras circule dans le monde entier. Les auteurs du drame sont finalement acquittés. La situation ne tarde pas à s'embraser. Bientôt, c'est la cohue entre la population de la Cité des Anges et les forces de l'ordre. La jeunesse se révolte et se retrouve au cœur d'un bain de sang. Le bilan des émeutes est terrible. Plusieurs milliers de blessés et une cinquantaine de morts. La chanson « Killing in the Name » est écrite en réaction à ce qu'il se passe à Los Angeles. L'album éponyme de Rage Against the Machine circule dans les bacs et provoque une très forte réaction dans l'opinion. La thématique du morceau, sans mesure, résonne aux oreilles des révoltés. Musicalement, le groupe se situe entre le rock et le hip-hop et de ce fait dispose d'une signature particulière. Au chant et à la guitare, dans les titres de la bande, les notes sont scratchées à la manière de vinyle. Ces morceaux disposent donc d'une tessiture particulière. Rage Against the Machine, c'est l'engagement à l'état pur. Le nom de la bande fait référence au manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels. Rien que ça. Pas besoin de vous faire un dessin. Le groupe se place en opposition à la société de consommation, à l'asservissement des travailleurs par le capital et plus encore. Rage Against the Machine combat un racisme qu'ils considèrent être d'État. Autant dire que leurs mots font écho au moment des émeutes de 1992 et que Killing in the Name devient un hymne, quasi instantanément. L'hymne des révoltés et des oubliés. Cela est facilité par le fait que la bande est elle-même originaire de la Cité des Anges. Très vite, ses membres deviennent des symboles. Cette idée de révolte et de dénonciation s'exprime dès les premières strophes du morceau. Ceux qui sont morts sont justifiés, parce qu'ils portent l'insigne. Ce sont les blancs élus. Vous justifiez ceux qui sont morts en portant l'insigne. Ce sont les blancs élus. Racisme ambiant, violence des polices au service du pouvoir, privilèges blancs sur les minorités. Ces quelques mots suffisent à soutenir l'embrasement. Le principal effet du morceau est une montée en tension continue. La plupart des phrases se répètent, entrecoupées de parenthèses instrumentales agressives. C'est le propre de la bande. Leur musique est saignante, sans mesure ni douceur. On tape dans le tas chaque note, à chaque mot. La pression ne retombe jamais tout au long du morceau. Pour preuve, ces quelques mots. Those that work forces are the same that burn crosses. Tués au nom de certains, de ceux qui travaillent, sont les mêmes que ceux qui brûlent les croix. Cette dernière phrase est répétée à 4 reprises. Mais comme si l'effet de répétition n'était pas suffisant une fois, on la retrouve identique dans le 2e couplet. L'idée est simple. Dénoncer. Marteler ses idées. Ce procédé, on le retrouve à la fin du morceau, où les attaques deviennent de plus en plus virulentes, voire violentes. Et maintenant tu fais ce qu'ils t'ont dit. Et maintenant tu fais ce qu'ils t'ont dit. Maintenant tu es sous contrôle. L'agressivité explose à la toute fin des paroles. Le chanteur, Zach de la Rocca, en perd presque la voix. Il s'exprime avec fureur. « Va te faire foutre. Je ne ferai pas ce que tu me dis. » Le musicien apostrophe directement les autorités. La rébellion, voilà ce qui doit prédominer. Ça et rien d'autre. Ce mot en F, que je ne vais pas m'amuser à répéter autant de fois que le chanteur, est déclamé pas moins de 17 fois tout au long de la chanson. Non, sacrée performance, vous en conviendrez. En même temps, il n'y a pas de quoi être surpris. Cette lutte, elle est présente dans le nom de la bande. Rage Against the Machine, la rage contre la machine, celle qui représente le système dans sa globalité, celle qui broie et qui tabasse. L'Europe va mettre du temps avant de découvrir ce succès. Par exemple, la France ne l'entend pour la première fois qu'en 1994, soit plus de 2 ans après les émeutes de Los Angeles. La présidence de la République et François Mitterrand craignent-ils un embrasement de la jeunesse française ? Qui sait ? Pour l'anecdote, le titre « Killing in the Name » est né dans la main de Tom Morello. Le guitariste américain l'a improvisé alors qu'il donnait cours à un élève. Mais le plus dingue n'est pas là. Le morceau est particulièrement engagé, on l'a vu. Le langage fleuri interpelle les bons esprits. Une version censurée est par exemple imposée sur le marché anglais. Mais nos amis de la BBC se trompent de version, présentant ainsi le morceau original au public. Son succès est alors exponentiel. Cela provoque un immense tollé. À la suite de sa bourde, la chaîne a reçu pas moins de 138 plaintes en une soirée. Et Rage Against the Machine s'est offert avec cette gaffe. Un incroyable coup de pub outre-Manche.
Justified, those that died, but wearing the badge, they get chosen white. Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
Classique 21, You Rock.